Christophe Espern, bonjour, merci d'être là aujourd'hui. Pourrais-tu te présenter un petit peu en quelques mots l'initiative EICD.info ?
Donc rapidement, donc on a été créé il y a 4 ans, enfin 3 ans et demi, pour informer sur la transposition de la directive européenne EUCD, donc qui porte sur le droit d'auteur et droit voisin dans la société de l'information, et plus particulièrement sur le projet de loi qui transpose donc la directive européenne en question en droit français. Et on a fait des actions d'information et des propositions alternatives qu'on a portées auprès des députés et du gouvernement, et dont certaines... ont servi à la rédaction d'autres amendements qui ont été votés, notamment à l'Assemblée nationale, mais aussi au Sénat.
Alors oui, parlons de cette fameuse loi sur le droit d'auteur, que certains appellent DATSI, pour droit d'auteur, droit voisin dans la société de l'information. Peux-tu nous résumer en quelques mots le contenu de cette loi qui a fait polémique ?
En résumé, c'est une loi qui porte sur le droit d'auteur au sens large et les droits voisins, donc les droits des producteurs et des artistes interprètes. Et en résumé, le but, c'est de créer un cadre juridique qui va permettre, enfin le cœur du texte, c'est un cadre juridique qui doit permettre le déploiement de dispositifs techniques, donc logiciels et matériels, et qui vise à contrôler les usages culturels, à tracer les œuvres numériques, numérisées, enfin les copies plus particulièrement de ces œuvres, et à empêcher la circulation de ces copies sur le réseau, puisqu'on se retrouve avec un jeu d'obligations et d'interdictions assorties de sanctions qui vise en fait justement à assurer un déploiement de ces dispositifs techniques qui limiteraient, empêcheraient certains actes pour éviter une circulation non autorisée de ces œuvres.
Alors ça c'est donc, si j'ai bien compris, le cadre de la directive européenne EUCD qui est transposée dans le DADVSI, mais il semblerait que le projet de loi français aille plus loin que le strict cadre de la directive. Peux-tu nous en dire un petit peu plus ?
Ça va plus loin, parce que le projet de loi, lui, prévoyait uniquement que... Enfin, la directive prévoyait que les États membres devaient mettre en place une protection juridique appropriée pour éviter le contournement des mesures techniques, donc des dispositifs de contrôle d'usage uniquement, de contrôle de copie, empêcher la publicité sur des moyens qui sont conçus pour contourner. Et là, on en est à un stade, et notamment c'est ce qu'on a appelé les amendements Vivendi Universal, qui visent à imposer les DRM, donc les mesures techniques, dans les logiciels de communication. Donc c'est les articles 12 bis et 14 quater du projet de loi. On a également une obligation pour les internautes d'installer des filtres sur leur ordinateur. Donc ça, c'est l'article 14 ter A du projet de loi. C'est inquiétant parce que ça veut dire que le fournisseur d'accès aura quelque part une obligation de fournir ces dispositifs-là, et que toute personne, tout internaute, tout abonné à Internet devra mettre en place ces dispositifs. Alors ça ouvre des questions assez larges sur seront-ils disponibles sur toutes les plateformes, donc les systèmes libres, les systèmes Microsoft, les systèmes, on peut penser au système Solaris de Sun aussi. Est-ce qu'il va falloir utiliser un seul type de système d'exploitation ? Que se passera-t-il si les dispositifs, ce que la loi appelle de façon un petit peu fallacieuse, les moyens de sécurisation ne sont pas disponibles sur votre plateforme? Est-ce qu'on va vous interdire de vous connecter? Est-ce que vous devenez responsable des actes de entre guillemets, et là c'est le terme est peut-être plus approprié mais plus utilisé en tout cas, de piratage informatique? C'est-à-dire que si on prend par exemple les bornes Wi-Fi, donc qui permettent de faire de la communication sans fil, c'est, on sait qu'il est très facile de casser ces bornes même quand elles sont chiffrées parce qu'il y a une faille dans l'algorithme de sécurité. Est-ce que à partir du moment où je pourrais pas apporter la preuve que justement il y a eu une fraude informatique sur mon système, est-ce que je vais devenir responsable? Est-ce que j'ai une obligation d'avoir des connaissances en sécurité informatique? Est-ce que tous les internautes ont cette obligation-là? Ça soulève énormément de questions. Donc ça va bien au-delà de la directive, les amendements vient dit, le 14-A. Et puis, à l'origine, le texte était uniquement et purement répressif, puisqu'il y avait 3 ans de prison, 300 000 euros d'amende pour tous les actes, y compris celui de faire connaître directement ou indirectement une information qui faciliterait la neutralisation des dispositifs de contrôle technique. Ça a baissé dans les peines, mais ça n'empêche pas que l'insécurité juridique et le flou total de rédaction restent, et qu'on se retrouve avec un nombre de dispositions que la directive ne requiert pas, effectivement, mais qui ont été introduites et qui ont été poussées tout au long des débats.
Alors, on comprend bien, effectivement, que le texte de loi a enflé par rapport à la stricte directive. qui est responsable en quelque sorte ? La question qu'on peut se poser là, c'est d'où viennent toutes ces dispositions qui semblent toutes plus inquiétantes les unes que les autres ?
À l'origine, donc, le cœur de la directive, ça vient donc de deux traités internationaux qui ont été négociés en 1996 à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Le responsable direct du contenu de ces traités, en tout cas des dispositions qui nous préoccupent, c'est Bill Clinton, qui à l'époque souhaitait se faire réélire avec donc passer un accord avec les industries hollywoodiennes. Le texte qu'il a proposé donc au Congrès américain a été rejeté. Il a fait en sorte donc de le faire adopter dans une instance qui est beaucoup moins démocratique qu'un parlement, puisque c'est l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Partant, les négociateurs européens et français qui ont laissé passer ces dispositions-là sont aussi responsables. À l'époque, c'était toujours le président Chirac et le gouvernement Jospin qui étaient aux affaires à ce moment-là, donc qui sont concernés directement. Le ministre de la Culture qui a négocié la directive, donc Madame Tasca, qui est maintenant sénateur, a aussi donc participé, elle a laissé passer cette disposition-là. Donc ça, c'est un peu le péché originel, comme tu dis, du texte, quoi. C'est un vrai souci, puisque même les négociateurs disent on n'a rien vu venir. Donc en fait, il y a une négociation qui a été faite sur un texte qui portait sur Internet, qui à l'époque n'était pas d'usage courant. Et contrairement à ce qu'on a pu voir, leurs enfants ne faisaient peut-être pas Internet et n'ont peut-être pas pu les alerter, contrairement à ce qu'on a pu voir par exemple à l'Assemblée nationale. Ensuite, en ce qui concerne le texte français lui-même, les premiers responsables sont les gens qui ont laissé donc le texte être rédigé de la sorte, et on peut parler de la technostructure qui n'est. Enfin, il y a des gens très bien qui travaillent dans les cabinets ministériels, et puis il y en a qui se laissent un peu aller à reprendre les dispositions qui leur sont proposées par les représentants d'entreprises ou d'industries. Et il y avait un organe qui s'appelait le Conseil supérieur de la propriété littéraire artistique, où siégeaient tous les membres, tous les représentants de grandes entreprises, de sociétés de gestion collective, et qui ont fait en fait la rédaction du projet de loi.
C'est-à-dire des gens qui ne sont pas élus par le peuple et qui écrivent la loi.
Voilà, tout à fait. Donc, en fait, le but, c'était que ce Conseil supérieur de la propriété littéraire artistique mis en place par Mme Tasca propose une solution concertée. Donc, il y aurait dû avoir tous les acteurs. Mais par exemple, il manquait les acteurs du logiciel libre. Il y avait une surreprésentation de certains acteurs comme les producteurs ou les représentants d'auteurs qui ont orienté le texte dans un sens. Et le problème, c'est que le texte a été repris tel quel, sans modification par les gens du cabinet, et validé et déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. Et c'est le texte original donc qui a été rédigé, qui a explosé donc à l'Assemblée en décembre.
D'accord. Quand tu dis le cabinet, c'est le cabinet du ministère de la Culture.
Voilà. Qui à l'époque c'était sous Monsieur Ayagon. Donc on a changé depuis. C'était sous Monsieur Ayagon. Mais le conseiller technique en question, par exemple, c'était Eric Gross qui était conseiller culture, est passé ensuite conseiller culture du Premier ministre. Donc il a dû faire des arbitrages sur un texte qu'il avait lui-même rédigé, qui a d'ailleurs explosé en décembre quand il est arrivé, puisqu'il était jugé par des députés de la majorité comme liberticide.
D'accord, oui, bah tu parles justement de décembre. C'est lors de la première session à l'Assemblée nationale qu'il y a eu cette fameuse explosion parlementaire autour de la licence globale. C'est là que les médias sont un petit peu saisis du dossier en transformant ce texte de loi en une loi sur le téléchargement. Alors qu'on a compris, ce que tu nous as expliqué, qu'il y avait des enjeux qui dépassaient de très loin la simple question du téléchargement. On a l'impression que dans les médias, il n'y a pas la réalité n'est pas présentée sous un jour très, très compréhensible. On a un petit peu du mal à comprendre le rôle des uns et des autres. Peux-tu nous en dire un petit peu plus, peut-être, sur les positions politiques des uns et des autres ? On a cru comprendre, par exemple, que Nicolas Sarkozy était intervenu directement au sujet de certaines dispositions. On a vu par ailleurs que la position du PS semblait un peu illisible entre l'Assemblée nationale et le Sénat. On a vu les centristes s'abstenir sur le vote du texte au Sénat. Peux-tu éclaircir un petit peu tout ça ?
Alors c'est compliqué. En décembre, il y a eu un effet de surprise. C'est-à-dire que le texte est arrivé, comme je l'ai dit, il prévoyait des sanctions absolument totalement disproportionnées, sans aucune. Il n'y avait pas de sécurité juridique pour les internautes. On pouvait tomber à tout instant. Donc là, des députés de tous bords se sont élevés contre le texte. Et il n'y avait pas eu un travail, je pense, de relation entre le ministère de la Culture et les groupes parlementaires, et surtout le groupe parlementaire de la majorité, puisqu'il étant majoritaire, il décide de vie ou de mort sur les textes. Et par surprise, en fait, ils ont à peu près le ministre, et le texte a explosé. Ensuite, il y a eu 2 mois de flottement où on caressait les députés dans le sens du poil en leur disant « mais oui, bien sûr, on va faire évoluer le texte dans le bon sens ». Mais au final, on est arrivé en mars et on a vu un rouleau compresseur. C'est-à-dire qu'il y a eu une pression qui a été faite. Alors c'est une pression qui est faite d'une part par le gouvernement lui-même et puis effectivement par les instances dirigeantes du parti, donc de l'UMP, pour obtenir certaines dispositions, et notamment les amendements Vivendi, qui ont effectivement été poussés par le président de l'UMP lui-même. Ensuite, il y a eu un sursaut, je dirais, ce que nous on avait appelé un instant de grâce parlementaire à 3h30 du matin, c'est-à-dire qu'après que toutes les dispositions que nous on juge liberticides et vraiment problématiques pour la sécurité juridique des acteurs de l'Internet, du logiciel, les internautes aussi, il y a eu un sursaut des députés qui ont effectivement voté un article 7 sur l'interopérabilité, les droits du consommateur et le logiciel libre, qui permettent de protéger donc tous ces éléments-là, ou de les garantir, et ça, ça c'était à la limite salvateur. On voit bien que c'est le Parlement qui à chaque fois intervient pour limiter la casse.
D'ailleurs, il me semble me souvenir que cet article 7 avait été voté à l'unanimité, c'est bien
tout
ça?
Tout à fait, il a été voté à l'unanimité, il a été salué outre-Atlantique. Le magazine Wired l'ayant titré « La France sauve la civilisation ». Donc c'était un peu excessif, mais ça a quand même fait sortir Carlos Gutiérrez, secrétaire d'État au commerce américain, qui a hurlé au vol de propriété intellectuelle, alors que la mise à disposition d'informations essentielles à l'interopérabilité ne relève pas de la propriété intellectuelle en tant que telle. Et c'est d'ailleurs tout le débat qui a lieu actuellement, petit aparté, dans le procès Microsoft Commission européenne, où justement la Commission européenne cherche désespérément à ce que Microsoft fournisse les éléments indispensables pour créer des logiciels interopérants, donc communiquant avec des logiciels Microsoft, et que la libre concurrence puisse être préservée, puisqu'ils font ce qu'on appelle de la rétention, ils refusent de donner les informations.
En gros, ce sont ces informations que Microsoft refuse de fournir après 5 ans de pression par l'Union européenne.
8 ans.
Après 8 ans, excuse-moi, qui aurait pu être exigé par les tribunaux français grâce à cet article 7 voté à l'unanimité.
Voilà. Donc le texte est sorti de l'Assemblée. Il était catastrophique sur un certain nombre de points, donc les amendements Vivendi adoptés. Mais il y avait cet article 7. Et ensuite, on arrive au Sénat. Et là, au Sénat, on a assisté à un véritable carnage. Et toujours pareil, le rouleau compresseur qui a été dénoncé par le sénateur PCF Jacques Ralite, qui n'a pas hésité à dire « Mes chers collègues, tous les votes sont programmés, on discute mais on ne s'entend pas ». Et moi, pour avoir assisté effectivement à une partie du débat et avoir pu discuter avec certains assistants parlementaires, ils m'ont dit « on n'avait jamais vu autant de pression ». C'est exactement la même discussion que j'avais pu avoir avec des parlementaires de l'Assemblée. On n'a jamais vu autant de pression. Et effectivement, les groupes s'appelaient entre eux pour se mettre d'accord sur ce qui allait être voté. Et on arrive au final au Sénat avec donc une opposition qui pose des amendements de suppression, par exemple de l'article 7 bis, qui est un article qui visait à encadrer juridiquement des dispositifs permettant le contrôle d'accès distant des ordinateurs de l'utilisateur. Donc moi je pense
En gros, ce sont des logiciels espions, l'affaire du Sony XCP ou des choses comme cela.
Voilà, c'est ce qu'on appelle des rootkits, c'est-à-dire c'est des logiciels qui permettent la surveillance des activités des utilisateurs, des communications, et ça ouvre des failles de sécurité, et il y a eu toute une polémique autour de ça, effectivement, autour du rootkit de Sony.
Effectivement, voilà, ce sont donc les producteurs d'œuvres musicales ou cinématographiques qui les installent à l'insu des utilisateurs sur leur ordinateur, sous prétexte de contrôler la copie. Et sur quoi portait exactement cet article 7 bis ?
Alors le but, c'était que les dispositifs permettant le contrôle d'une ou plusieurs contrôle d'accès direct ou indirect d'une ou plusieurs fonctionnalités de l'ordinateur de l'utilisateur, les fournisseurs et les importateurs de tels dispositifs, d'une part, fournissent à la demande de la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information, donc c'est un service de l'armée, les codes sources et les éléments nécessaires pour reconstruire le logiciel, donc le binaire, et pour s'assurer qu'il comporte pas des failles de sécurité, parce qu'il y a des risques, notamment en termes d'espionnage industriel, parce que les mesures techniques utilisées pour protéger des œuvres comme des CD, des fichiers, sont des mesures techniques qui vont être aussi utilisées pour protéger des documents professionnels. Donc il y a un vrai risque qui existe là. Il y avait un deuxième point, c'était un contrôle par la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Et donc les socialistes posaient un amendement de suppression de cette disposition-là.
En gros, c'était des dispositions qui visaient à faire en sorte que, sous prétexte de lutter contre la prolifération de la copie, on n'installe pas à l'insu des utilisateurs des logiciels espions qui pouvaient nuire à la sécurité de l'État ou collecter des données personnelles.
Voilà. Alors, on peut comprendre à la limite que, comme a dit François Bayrou en hémicycle, ce type de dispositif ne s'encadre pas, il s'interdit. C'est une position que nous, on a. On dit, vous voulez en fait déployer des dispositifs permettant la surveillance des données traitées et mises reçues, Alors que ce type de dispositif, normalement, c'est que la police, sous contrôle d'un juge, qui peut le faire. Et là, vous allez autoriser les sociétés privées à déployer ça sur des machines. Alors là, ça prévoyait un encadrement. Nous, on aurait préféré une interdiction. Mais on ne peut pas poser un amendement de suppression sans poser d'amendement visant à l'interdiction. Et le deuxième point, il proposait un amendement de suppression de la disposition relative à la décompilation. Donc la décompilation, c'est la capacité pour un développeur d'étudier un logiciel, de le décompiler avec des outils qui sont dédiés, pour extraire ces informations essentielles, pour interopérer, et ensuite faire un logiciel indépendant qui interopère avec le premier logiciel, donc qui permet de communiquer. Et peut-être que les députés, effectivement, dans la façon dont vous avez rédigé, avaient été trop loin. Mais poser juste un amendement de suppression sans poser autre chose, c'est un problème. Alors nous, on les a rencontrés en urgence parce qu'ils nous avaient pas reçus juste avant, et ils ont enlevé leurs amendements de suppression. Mais ils ont posé un amendement, donc sur le 7 bis, ça c'était très bien. D'ailleurs, l'article a été conservé parce que le rapporteur lui-même, je pense, sous la pression d'acteurs proches de la défense qui sont intervenus pour dire attendez, la commission des affaires culturelles s'occupe pas des problématiques des amendements qui sont posés par les gens du secrétariat général de la défense nationale. Donc ça c'était un point important, mais sur la décompilation, ils ont posé un amendement qui était insuffisant. Donc on n'a pas eu une vraie opposition comme il y avait eu à l'Assemblée, et ça c'était intéressant. À l'Assemblée, il y avait vraiment une opposition qui était en plus une opposition au moins en décembre qui venait de tous les bancs de l'hémicycle et que c'était vraiment une initiative parlementaire, et au Sénat, on n'a pas vu ça.
Je reviens une seconde sur cette histoire de décompilation. Donc, ces dispositions qui permettent à tout utilisateur de casser un logiciel pour étudier son fonctionnement, pour faire fonctionner un autre logiciel avec lui, c'est bien cela.
Oui.
Ces dispositions sont actuellement autorisées. C'est dans le
encadré.
Droit d'auteur. C'est dans le droit d'auteur sur
les
logiciels.
C'est une exception au droit d'auteur des auteurs de logiciels. C'est-à-dire que à partir du moment où la personne ne donne pas facilement et rapidement accès aux informations essentielles à l'interopérabilité, il est légal d'étudier le logiciel et d'extraire les informations et de développer un logiciel indépendant et de communiquer ces informations si besoin pour l'interopérabilité.
D'accord. Et donc ces dispositions existaient déjà et elles ont failli être supprimées à l'occasion de ce texte.
Alors, on a un conflit de droit, en fait, entre la directive européenne qui prévoit la protection juridique des dispositifs techniques et qui interdit le contournement, et la directive sur les programmes d'ordinateur qui, elle, autorise, en fait, l'étude et l'extraction des données. Laquelle prévaut entre l'une et l'autre, en fait. Et le conflit de droit, nous, ce qu'on demandait, c'était une sécurisation juridique des acteurs du logiciel pour qu'ils puissent continuer à travailler dans une... On voit bien, tout le monde le sait, qu'il y a un conflit. D'ailleurs, quand on a rencontré Mme Tasca, elle n'a pas hésité à le dire. Il y a un conflit de directives. Donc nous, on voulait une phrase explicite qui précise que décompiler une partie logicielle d'une mesure technique n'est pas un contournement en tant que tel. Donc on a obtenu des points après sur d'autres articles, un petit peu à la surprise d'ailleurs de David Assouline et du rapporteur et du gouvernement, puisque un texte qui a été normalement, on aurait dû être adopté un amendement qui visait à supprimer le droit de contourner une mesure technique à des fins d'interopérabilité, n'a pas été supprimé. Donc ça, c'est toujours dans le texte. Et ça, c'est un point qui est un point important et auquel il va falloir veiller au maintien pour la suite des choses.
D'accord. Donc, on était un petit peu perdu en tant que simple spectateur lorsqu'on regardait les débats. Hein, je ne te le cache pas. C'est vrai que on voyait certaines personnes de certains partis qui prenaient des positions, des postures, et puis qui ensuite laissaient passer des amendements particulièrement dangereux ou qui s'abstenaient. Tout ceci avait l'air un petit peu opaque. Pourrait-on faire un point rapide sur l'état du texte maintenant qu'il est sorti du Sénat?
C'est un état qui est assez catastrophique. Donc l'article 7, tel que adopté par les députés, qui était le seul point d'équilibre du texte, en fait, a disparu en tant que tel. À la place, il y a une autorité. Alors on avait une interopérabilité de principe, donc tout le monde pouvait mettre en œuvre l'interopérabilité, et il y avait des obligations qui avaient été posées aux fournisseurs de mesures techniques pour qu'ils donnent les éléments permettant l'interopérabilité, permettant de la mettre en œuvre. Là, on a une autorité administrative qui substitue à cette interopérabilité de principe et qui va intervenir pour éventuellement empêcher un acteur de publier un logiciel interopérable, donc un lecteur, par exemple, permettant de lire un fichier téléchargé sur une plateforme légale. Il faudra passer par l'auteur du logiciel ayant encodé la musique. Donc ça veut dire, en fait, qu'une autorité administrative qui n'est pas un juge, c'est pas le pouvoir judiciaire, va pouvoir décider de qui a le droit d'intervenir sur le marché. Et elle pourra interdire la publication du code source. Donc pour les auteurs de logiciels libres, c'est de la censure, ni plus ni moins. Cette autorité a une capacité de censure des auteurs de logiciels libres. En plus, c'est un machin. On se demande comment ça va fonctionner, le coût pour pouvoir imposer ça à Microsoft ou Apple. On voit la Commission européenne, on en a parlé, a mis 8 ans pour finalement ne pas arriver à le faire. Est-ce qu'on croit que le gouvernement français a le budget pour que cette autorité étudie des milliers de pages de spécifications techniques, des milliers de requêtes de brevets, parce qu'ils vont arriver en posant des brevets à les grandes entreprises en disant « tous ces brevets sont valables ». Que va faire l'autorité? Est-ce qu'elle va dire « non, ce sont tous des brevets logiciels, je les refuse » ou est-ce qu'elle va les étudier un par un, décider que tel brevet est valable, tel autre n'est pas valable, etc. C'est des procédures extrêmement longues, on est sur des marchés à cycle d'innovation court. En fait, on va figer des positions dominantes obtenues de façon abusive et c'est vraiment un enlisement. Le but, c'est d'enliser. Les gens qui ont porté ça, parce qu'il ne faut pas me faire croire que c'est les administrateurs du Sénat ou les sénateurs qui ont trouvé ça tout seul, c'est des gens qui ont posé ça de façon à enliser le marché et à empêcher justement que le législateur fasse une loi claire et précise pour que le juge puisse l'interpréter. On crée en fait une sorte de usine à gaz qui enlève sa responsabilité politique au législateur et qui, d'autre part, interdit au juge d'intervenir immédiatement pour faire cesser ce qui serait en fait un blocage de la concurrence.
D'accord. Donc ça, c'était sur l'article 7 et les dispositions relatives à l'interopérabilité. Ce que tu viens de nous décrire, c'est, si j'ai bien compris, il me semble que c'était le sénateur Retailleau qui parlait du passage d'une interopérabilité de droit à une interopérabilité négociée. Voilà. Donc on serait soumis au bon vouloir.
Et conditionnel, optionnel, hypothétique.
Optionnel, voilà.
C'est pas sûr qu'on puisse la mettre en œuvre.
Hypothétique et négociée, voilà. Tu nous as parlé en outre de l'article 7 bis, celui qui concernait l'obligation de déposer les codes sources des mesures techniques au service de l'État compétent en matière de sécurité et de données personnelles. Qu'en est-il des dispositions relatives à la copie privée et les fameux amendements, les fameux articles Vivendi Universal ? Où en est-on après le Sénat ?
Alors après le Sénat, la copie privée peut être interdite, toujours pareil, par la même autorité, puisqu'elle a des pouvoirs étendus, elle va pouvoir interdire en fait de faire des copies privées de DVD par exemple. En fait, c'est elle qui va décider de comment le public peut copier. Alors 3 copies si c'est une œuvre qui vient d'un site d'un service en ligne et si c'est musical, 0 copie si c'est un film qui est sur un DVD, une copie si c'est un CD, et donc ça devient totalement arbitraire et on ne sait pas du tout ce qu'il va pouvoir en faire et comment vont pouvoir être mis en œuvre ces dispositifs techniques. Donc on passe d'une copie privée que l'auteur ne pouvait interdire dans les textes de loi à une copie privée que l'auteur peut contrôler et interdire finalement si une autorité administrative lui en donne le pouvoir.
Oui, parce que si j'ai bien compris, le principe même de la copie privée, c'est qu'elle est réservée au seul usage du copiste. Donc sa seule définition, en fait, c'est cet usage privé, son caractère privé. Et là, on ajoute un cadre qui permet d'en limiter le nombre, donc qui va un petit peu en contradiction.
Voilà, en limiter le nombre, et tous les amendements qui visaient à ce que le nombre ne puisse être inférieur à 1, la limitation du nombre, ont tous été refusés.
Oui.
Donc ça veut dire qu'on peut limiter à 0, et à ma connaissance, limiter à 0, c'est interdire. Mais tout le discours du ministre et du gouvernement et du rapporteur, c'est de dire mais non, on va l'autorité garantir la copie privée. Sauf qu'on n'a pas écrit dans la loi, et elle peut travailler que sur la loi, même si c'est pas un juge, mais ça n'empêche pas qu'elle va quand même travailler sur la loi. Elle n'aura pas écrit explicitement qu'on peut pas interdire la copie privée.
Et l'opposition ne s'est pas opposée justement à cette disposition visant à annuler tout simplement la copie privée ?
Il y a eu des abstentions et ils ont voté contre le texte, mais c'est vrai qu'ils ont laissé passer énormément de dispositions et qu'ils n'ont pas joint leur voix à l'Union centriste. Et d'autre part, l'Union centriste, elle, a posé de bonnes dispositions dont certaines sont passées parce qu'il y avait des accords avant sûrement qui avaient été faits, mais par contre s'est abstenue. Alors que si elle avait voté contre, ça aurait fait le mandat le plus serré de la législature. Et par exemple, si tous les centristes avaient voté contre et que les deux MPF qui se sont opposés pourtant en séance avaient aussi voté contre, le texte ne passait pas. Donc ça s'est joué, ça faisait un 163-162. Donc il y a eu un petit peu cet instant de flottement où on passe un minima à un certain nombre de dispositions et on ne vote pas contre le texte pour ne pas mettre à mal le gouvernement. Parce qu'au Sénat, faut voir une chose, c'est quand même une assemblée de notables. Il y a des choses qui ne se font pas. Si la commission des affaires culturelles arrive avec des textes, le rapporteur et le président, on ne vote pas contre parce que ça ne se fait pas. Il y a un vrai souci, autant à l'Assemblée, ça a été une guerre de tranchées, comme certains l'ont dit, et il y a eu un vrai débat, autant au Sénat, c'était, comme l'a dit très bien Jacques Ralite, donc le sénateur, je le répète, tout était programmé. Il l'a dit en séance quand même. Ce qui a fait faire au ministre, oh, mais oh quoi ? C'était toute personne, tout observateur attentif et qui a quelques éléments, c'est pertinemment que c'était le cas.
Mmh. Oui, donc c'est effectivement assez... Ça fait se poser des questions sur, le... sur les institutions. Avant que l'on continue justement sur les institutions et sur le parcours de cette loi, peux-tu nous donner un état des fameux articles Vivendi Universal tels qu'ils ont été votés au Sénat
ces deux articles, donc 12 bis, 14 quater, le 12 bis vise les logiciels manifestement destinés à la mise à disposition illicite d'œuvres ou d'objets protégés, donc de la musique, des films, des logiciels, des textes, des photos... tout ce qui est une expression originale de l'homme sous une forme numérisée, donc c'est très large. Je ne connais pas personnellement de logiciel manifestement destiné à la contrefaçon, parce que là c'est le cas, donc à la mise à disposition illicite. Donc on se demande ce que vise cette disposition. Le Sénat a supprimé une disposition garde-fou qui tentait de limiter les dommages sur la sécurité juridique et qui était plutôt pas mal, mais bon, l'article en lui-même n'est pas acceptable puisqu'il vise un outil technique et prête une intention délictuelle à un outil, alors que seul l'usage qu'on fait de l'outil peut être illicite et sûrement pas l'outil. Un fournisseur de marteau ne peut pas prévoir qu'on va utiliser, enfin, ne peut pas empêcher qu'on va utiliser son marteau pour fracasser un crâne. Et la même chose pour une voiture, on peut pas prévoir qu'une voiture va être utilisée pour une voiture bélier. Donc c'est demander, c'est prêter une intention à un outil, ce qui est assez intéressant. Et le deuxième article, c'est l'article 14 quater, qui lui crée une responsabilité civile aggravée du fait d'autrui. C'est-à-dire que si un logiciel est principalement utilisé pour la mise à disposition de contenu sans autorisation, l'éditeur du logiciel, la personne qui le communique, qui le distribue, peut être jugé responsable et doit, en ce qui concerne l'éditeur, mettre en place des tout dispositifs que lui imposerait le juge sous astreinte en référé, c'est-à-dire avec des risques d'amendes qui tombent tous les jours, qui peuvent être élevées. On ne sait pas du tout comment ça va fonctionner, puisque par exemple pour les auteurs de logiciels libres, c'est complètement distribué. Et derrière tout ça, puisque c'est à l'international, donc les logiciels seront toujours disponibles par exemple en Belgique, en Allemagne, qui n'ont pas ces dispositions-là. Un logiciel interdit en France sera accessible, sera disponible en Allemagne. Va-t-on commencer à mettre en place des dispositifs de filtrage aux frontières que les fournisseurs d'accès devront mettre en œuvre? Ça, c'est une question que se pose l'association des fournisseurs d'accès qui milite pour la suppression de ces deux dispositions, donc l'article 12 bis et l'article 14 quater, parce qu'ils y voient, et on y voit aussi la même chose, en creux, en fait, un retour du filtrage aux frontières tel qu'il avait été rejeté pendant la loi sur l'économie sur la confiance numérique. On revient sur ces dispositions de filtrage qui on a démontré que c'était inefficace, coûteux pour les opérateurs, donc pour les abonnés, puisqu'ils vont, ils vont remettre le prix sur l'abonnement, et qui en plus porte atteinte à des libertés fondamentales, et notamment à la liberté de communication. C'est-à-dire que sans intervention de l'autorité judiciaire, normalement on ne peut pas interrompre une communication, même publique. Là, on rentre dans une logique où, comme je le disais, on va imposer via le 14 ter A, des dispositifs de filtrage. Et il faut voir en fait que plus le texte avance, plus les personnes qui poussent ces dispositions-là, et qui sont donc Vivendi, en l'occurrence, qui trouvent des relais dans les cabinets ministériels, même à l'Élysée, puisqu'il y avait un conseiller culture de l'Élysée qui est M. Lassement, qui poussait cette disposition-là, on ne sait toujours pas pourquoi, parce que c'est évident que ces dispositions sont soit des dispositions d'affichage, soit des dispositions qui sont vraiment problématiques pour les libertés. Et si c'est des dispositions d'affichage, on reste avec une insécurité juridique totale. Personne ne peut prévoir ce que vont faire ces dispositions-là. Donc les amendements Vivendi sont toujours présents et ils sont de pire en pire.
D'accord. Bon, c'est une espèce de musée des horreurs qu'on évoque là en faisant le tour de ces dispositions. Il semble, au vu de ce que tu nous expliques, qu'il y a des différences notables entre la version votée à l'Assemblée nationale et la version votée au Sénat. Donc si j'ai bien compris, le texte est examiné dans le cadre d'une procédure d'urgence, c'est-à-dire qu'au lieu d'une navette, avec c'est-à-dire des allers-retours entre l'Assemblée et le Sénat, il n'y a qu'un seul examen à l'Assemblée, puis un seul examen au Sénat, qui est censé se terminer par un examen dans une commission mixte paritaire, donc composée en proportion égale de députés et de sénateurs. Qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a un espoir de voir le texte arriver en seconde lecture, donc à nouveau devant l'Assemblée nationale, où il y aurait moyen d'atténuer ces dispositions, ou en tout cas de les retravailler, peut-être un petit peu plus sereinement, dans des conditions de débat démocratique ? Ou est-ce qu'on va continuer l'urgence et le passage un petit peu en force d'un texte dont on a l'impression qu'il a été écrit à la va-vite et sans concertation. Qu'est-ce qui va se passer? Qui peut encore agir à ce niveau-là politiquement?
Alors, actuellement, en fait, ce qui se passe, c'est que, et on peut le comprendre, le cabinet du ministère de la Culture a l'air de vouloir qu'il n'y ait pas de seconde lecture. Donc il l'a fait savoir à la presse, via l'attaché de presse, qu'il n'y aura pas de seconde lecture. Mais quand on se renseigne, on se rend compte que c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que la commission mixte paritaire que tu as évoquée n'a pas été convoquée officiellement par le Premier ministre, qui d'ailleurs n'est pas là puisqu'il est à la réunion pour le Chitungaya, ou je ne sais plus comment ça se prononce. Mais en tout cas, la commission mixte paritaire n'a pas été réunie. Par contre, effectivement, est poussé le fait qu'il n'y aura pas de seconde lecture. Alors nous, on s'interroge sur le fait qu'il n'y ait pas de seconde lecture, puisque, comme l'ont dit d'ailleurs deux élus de la majorité dans une lettre qui a fuité et qui était destinée au Premier ministre, mais il y a eu des copies qui ont circulé, ce qui se passe, c'est que les positions sont irréconciliables. Donc le seul moyen, c'est qu'il y ait
une positions entre
le Sénat et l'Assemblée sont irréconciliables, d'accord, notamment sur l'article 7. Donc le seul moyen, c'est qu'il y ait une deuxième lecture pour qu'il y ait un vrai débat de fond sur ces dispositions-là, mais aussi sur d'autres, puisque toutes celles concernant le filtrage, qui en fait permettent la mise en œuvre, ont été rajoutées par le Sénat et l'Assemblée a quand même son mot à dire là-dessus. Et il faudra un débat public pour en parler à l'Assemblée, puisque l'Assemblée a quand même une vivacité de débat qui est différente de celle du Sénat.
Comment ça se passe la commission mixte paritaire? J'ai l'impression que c'est un machin un peu opaque.
La commission mixte paritaire, donc c'est 7 députés, 7 sénateurs qui se réunissent dans une pièce et qui se mettent d'accord. Et avant, en fait, les positions ont été déterminées en réunion de groupe parlementaire. Et donc, tout dépend de la pression qui va être exercée sur les parlementaires de la majorité. Mais normalement, la deuxième lecture est, je dirais, de droit, au regard du fait qu'il y a c'est irréconciliable, et que le ministre s'est engagé à 7 reprises en hémicycle à dire s'il y a des divergences fondamentales entre les deux textes Assemblée-Sénat, je vous garantis que nous passerons pas en force. Il n'a pas arrêté de le répéter. Là, on est dans le cas où il y a l'évidence, il y a des divergences fondamentales. Donc, nous, ce qu'on demande, et on n'est pas les seuls, c'est que le ministre respecte la parole donnée au nom du gouvernement. Donc, en fait, c'est le Premier ministre, là. La responsabilité politique retombe sur le Premier ministre, qui va devoir, à un moment ou à un autre, trancher et dire soit je passe en force et je reviens sur la parole donnée par mon ministre en séance, parce qu'il faudrait être d'une mauvaise foi absolue pour nier qu'il y a des divergences fondamentales entre les deux textes, soit je ne passe pas en force et je laisse le débat démocratique se prolonger pour arriver à un texte qui soit à peu près, enfin, sur certaines dispositions, au moins. Le fruit d'un consensus, parce qu'il faut bien voir que la loi de 1957 et la loi de 85, qui sont les deux grandes lois sur le droit d'auteur, toutes les deux été votées à l'unanimité. Là, on est sur un texte où c'est une véritable bataille et c'est fracturé à l'intérieur même des partis. On a bien vu les positions PS qui sont, c'est des grands écarts absolus entre l'Assemblée et le Sénat sur certaines dispositions. La section culture du PS dirigée par Madame Hidalgo qui propose des dispositions reprises par le rapporteur UMP au Sénat. Les députés qui ont des positions de licence globale qui sont totalement rejetées donc par la section culture, par le Sénat. On s'y retrouve plus vraiment. L'UDF qui, à l'Assemblée, vote contre, est extrêmement agressive, et au Sénat défend des bonnes positions, mais finalement s'abstient alors qu'il était très clair qu'un vote contre aurait peut-être permis la bascule du texte. Donc on est face à l'intérieur des partis, c'est fragmenté. Dans la société, les internautes sont opposés. Ils parlent déjà de désobéissance civile, ce qui est dramatique pour une loi non votée, mais où il y a eu un large débat public. À notre sens, il faut continuer. Et vu que ce sont justement des positions irréconciliables, c'est les étudier avec attention l'une et l'autre. Et ensuite choisir. Et c'est un choix de société. Donc on va pas le faire en urgence. Le risque étant que ça passe pendant la Coupe du Monde, donc pas de couverture médiatique, ou alors cet été. Comme ce qui s'est passé les années d'avant, c'est-à-dire que la LCEN, il y a eu un vote qui a eu lieu le 15 juillet, et pour la réforme de la loi informatique et liberté qui a introduit des dispositions qui permettaient à des acteurs privés de se livrer, enfin, qui ouvraient la porte à une possibilité d'action d'acteurs privés à la place de services de police, ça a été voté le 15 août, le 16 août, le lendemain du 15 août, donc après les jours fériés. Donc le risque, c'est que on termine le travail avant les grandes affaires qui sont effectivement les élections, etc. Mais enfin, nous, en tant qu'associatif, et on n'est pas les seuls d'ailleurs, on n'hésitera pas à rappeler le moment venu à chacun ses responsabilités sur ce texte, et on ne croit absolument pas au discours qui voudrait que ça serait une loi transitoire. On pense qu'une fois que le texte est adopté, le ministre de la Culture, quel que soit son bord qui sera nommé, ne rouvrira pas la boîte de Pandore. Donc soit on finit bien le travail, soit effectivement on vote n'importe quoi et ensuite l'insécurité juridique créée restera. Tout le monde dit que c'est inapplicable et on est plutôt d'accord sur cette approche-là. On pense que le Conseil constitutionnel va aussi peut-être un petit peu faire le ménage parce que le texte était illisible, mais l'insécurité juridique créée par le flou justement de toutes ces dispositions-là restera. Et ça, c'est pas bon à la fois pour le business et pour le respect du droit d'auteur, pour la légitimité même du droit d'auteur. Et c'est ces deux points-là qui, à mon sens, devraient guider le Premier ministre. D'une part, le fait qu'il faut prendre en compte les acteurs d'industrie stratégique comme celle du logiciel et notamment du logiciel libre. Et d'autre part, si on veut qu'une loi soit respectée, encore faut-il qu'elle soit applicable et respectable. Les conditions d'élaboration de la loi n'en font pas une loi respectable. Les lobbies ont été omniprésents, tout le monde en parle. Lundi, il y aura normalement un article dans l'International Herald Tribune qui va parler du lobbying. Je pense que ça peut être assez intéressant d'acheter lundi cet article, ce journal-là, parce que ils ont l'air d'avoir fait vraiment une étude de fond. Donc il suffit d'aller sur Internet aussi hein, et de regarder, par exemple sur le site de UCD Info, vous avez des éléments pour comprendre que la loi n'a pas forcément été rédigée par les élus, même s'ils l'ont votée parfois sans même savoir ce qu'ils avaient dedans.
On achètera cet article lundi ou on le lira sur le site de l'International Herald Tribune comme des pirates. Effectivement, oui, il y a sur le site de ucd.info énormément de documentation, un dossier assez complet, de nombreuses lettres et de choses comme ça qui sont nécessaires pour éclaircir un petit peu ce débat complexe. Tu parlais à l'instant d'une possibilité encore ouverte pour une seconde lecture et un nouvel examen à l'Assemblée nationale. La question que j'ai envie de te poser maintenant, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que les internautes concernés par ces dispositions sur le filtrage, les auteurs de logiciels et notamment de logiciels libres qui sont inquiets, qui sont en train de préparer leurs valises ou en tout cas se préparer à mettre leurs logiciels dans d'autres pays que la France, les acteurs industriels qui sont également en train de se poser la question de la pérennité de leurs investissements en France, que peuvent faire tous ces acteurs concernés pour essayer de faire basculer dans le sens d'une seconde lecture à l'Assemblée ?
Comme j'ai dit, la décision là appartient au Premier ministre de savoir s'il va convoquer une CMP ou s'il va laisser le débat démocratique se poursuivre et pas faire un passage en force. Donc il faut écrire, et non pas là au conseiller technique, mais au conseiller politique, au directeur de cabinet du Premier ministre, leur écrire directement. Donc vous allez sur le site du Premier ministre, la composition du cabinet, vous trouvez les noms, puis vous envoyez une lettre. Donc pour lui dire voilà, nous on pense qu'il faut un débat. Là c'est même pas le problème n'est pas de savoir ce qu'il y a dans le texte en lui-même. Là c'est le problème c'est de savoir si on veut vraiment un débat entre deux positions qui sont effectivement irréconciliables. Il va falloir choisir à un moment ou à un autre. Et on pense que nous il faut un débat public et pas sept sénateurs, sept députés qui se réunissent dans une salle close. Donc les internautes peuvent écrire, signaler que selon eux telle ou telle disposition n'est pas acceptable et qu'ils veulent un débat pour une deuxième lecture. Les acteurs industriels pareil, prendre des positions publiques. Parce qu'il faut quand même dire les choses. Il y a des acteurs comme Object Web, donc le consortium qui regroupe Bull, France Télécom, l'INRIA, le CEA, le CNRS, Red Hat.
Dassault Aviation.
Et Dassault Aviation, oui, qui avait écrit une lettre ouverte au sénateur qui n'a pas eu d'effet, puisque les dispositions qui dénonçaient ont été votées, celles qui souhaitaient voir conservées ont été supprimées. Mais en tout cas, il faudrait qu'il, bien entendu, s'y recommençait, ça serait fort utile. Mais en adressant directement au Premier ministre, et puis aussi peut-être au président de l'UMP qui intervient dans ce débat, comme on l'a dit tout à l'heure, qui intervient. Il faut savoir une chose, c'est que l'article 14 quater, donc qui est vraiment problématique en termes de sécurité juridique,
le vivendi universel civil.
Voilà, avait été le Premier ministre en janvier-février avait tranché arbitré pour une suppression de cet article, justement au regard de la sécurité juridique pour les acteurs de logiciels libres. Et le président de l'UMP, M. Nicolas Sarkozy, a fait pression pour que ça passe à l'Assemblée. Ensuite, les sénateurs ont supprimé à nouveau cet article 14 quater, toujours pour la même raison, insécurité juridique pour les acteurs de l'Internet. Et on a vu l'article réintroduit, l'amendement de suppression du rapporteur devenant un amendement reposant la disposition, mais en une semaine d'intervalle. Et à la question que lui ont posé tous les groupes parlementaires présents, mais pourquoi vous expliquez dans votre rapport que ça crée une insécurité juridique, vous nous réintroduisez la disposition de façon encore pire en plus. Pourquoi est-ce que... qu'est-ce qui vous a valu cette modification ? Et il n'y a pas de réponse. La seule réponse qui a été donnée, c'est de dire, oui, c'était... nous avons écouté les acteurs des milieux culturels et nous avons estimé qu'il fallait prendre en compte leurs demandes. Moi, je m'interroge sur les pressions politiques qui ont pu s'exercer sur les sénateurs à ce moment-là. Le 14 quater est un article qui crée une insécurité juridique. Tout le monde le sait maintenant. La question, c'est de savoir qui insiste pour qu'il reste. Et on pense que le Premier ministre devrait de nouveau arbitrer dans le bon sens et dire « je ne veux pas de cet article ». C'est sa responsabilité. Le gouvernement, c'est D'accord. le Premier ministre qui le dirige normalement.
D'accord. Donc c'est au niveau du Premier ministre que ça se passe. Il faut lui écrire directement. Est-ce que cela sert à quelque chose de contacter les députés? Tu parlais tout à l'heure d'une lettre écrite par Monsieur Carayon, je crois, et Lambert.
Oui, c'est qui ont écrit une lettre donc au Premier ministre. Donc, mais là, il faut écrire aux députés.
Des lettres, de députés au Premier ministre.
Voilà, mais faut qu'elle soit. Là, ce qu'il faudrait, c'est que ça soit des positions publiques. Nous, on ne comprend pas cette omerta qui règne. Il faut que ça soit des positions publiques. Il faut que les députés qui sont des élus du peuple, on élu un député n'est pas un élu de circonscription. C'est un élu du peuple. Il prend une position et il défend son droit de légiférer en conscience sur un sujet complexe, non pas en urgence, qu'il ait le temps. Il est indépendant du gouvernement, de l'exécutif. Il doit assurer son rôle de législateur et ne pas porter des dispositions qui lui sont amenées sur des plateaux d'argent, comme ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Il doit défendre ce rôle-là, parce que quand il défend ce rôle-là, il défend aussi les droits des citoyens. Et ça serait normal que des parlementaires réaffirment leur indépendance sur un texte aussi complexe, aussi polémique, et où on voit qu'il y a des positions qui sont finalement extrêmement opposées. Donc ça sera aux députés, normalement, de monter au créneau pour défendre le droit d'une deuxième lecture. Le ministre s'y engageait 7 fois en hémicycle.
D'accord. Bon, eh bien, on sait ce qu'il nous reste à faire. Tout ça, nos stylos, nos plumes, nos traitements de texte, et en avant pour une deuxième lecture. Christophe, tu as quelque chose à ajouter ?
Bah non, en avant pour une deuxième lecture.
D'accord. Et si on a des questions dans le public, peut-être ? Non. Pas de questions d'Internet non plus. Alors, attendez, on va prendre le micro pour l'enregistrement. Merci.
Est-ce que la prochaine échéance présidentielle, est-ce que vous pensez que cette échéance, elle risque de nous apporter un petit peu d'espoir par rapport notamment à ce qu'on vient de comprendre au niveau du délitement de nos institutions.
Sur ce dossier-là, comme je l'ai dit, soit on finit bien le travail. Nous, on était pour le retrait du texte. Donc on était pour un retrait du texte. On est pour le retrait de l'urgence, comme je l'ai expliqué plusieurs fois. Mais sur ce dossier-là, il faut prendre le temps. C'est un sujet extrêmement complexe. Et on a vu, ça a explosé. Il n'y a pas de position claire. Les partis n'avaient pas travaillé, en fait. Là, on nous explique que tout ça, c'est une loi transitoire qu'on va voter avant l'été. Et puis que après, quand il y aura tel ou tel qui sera élu président, vous allez voir, il va mettre un ministre qui va réformer tout ça. On parle même d'abrogation. Certains partis parlent d'abrogation. Je pense qu'il y a une phrase de Jacques Chirac qui est très vraie, qui dit « Les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent ».
Il me semble que c'est Charles Pasqua.
Il semble que c'est
Charles Pasqua.
Ou que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon, la phrase est très bonne.
En politique, les promesses n'engagent que ceux qui croient.
Je pense que les présidentielles, la campagne présidentielle, va être effectivement un moyen de faire beaucoup de promesses. On s'interroge sur, une fois les élus en place, ce qu'ils feront. Et on constate que dans tous les partis, c'était extrêmement opposé. Et justement, là, ce qui pourrait se passer, au contraire, c'est que plutôt que de légiférer en urgence, on ouvre le débat et on en profite justement des élections pour qu'il y ait des promesses de fait, mais pas sur un texte qui a été adopté. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Nous, on avait proposé quelque chose qui était d'organiser des assises du numérique. L'idée serait visiblement dans l'air. Si c'est pour passer le texte et ensuite organiser les assises... Je pense pas que ça soit une bonne idée, là. Parce que on travaille sur... Alors que le cadre législatif est déjà figé et que c'est juste pour faire du teasing, pour attirer les lecteurs, nous, on n'hésitera pas à le dénoncer à ce moment-là, quoi. Donc est-ce que ça apporte une bouffée d'air? J'en suis pas convaincu. Sauf si le texte ne passe pas pendant l'été, là. Et qu'il y a une deuxième lecture. Il faut une deuxième lecture.
Merci, Christophe. Et j'espère qu'on aura de bonnes nouvelles bientôt. Et de toute façon, nous continuerons ce cycle de rencontres pour faire le point justement jusqu'à la fin de cette histoire du projet de loi d'AFSI. Voilà, merci à tous, merci aux internautes et à très bientôt.